asperges, ces produits aujourd'hui qui ne sont plus consommés. Il faut acheter ces produits frais pour aider nos agriculteurs. Merci beaucoup de nous avoir répondu ce soir sur Europe 1. Restez
merci
avec nous dans un petit instant. Votre rendez-vous quotidien avec les grandes voix, bien sûr. Ève Roger, Mickaël Darmon et Emmanuel Duteil sont experts dans leur domaine, société, politique, économie. On a évidemment toutes les questions qui vont bien à leur poser. Ils y répondent à mes côtés là, tout de suite. Bonsoir les grandes voix.
Vous pouvez réagir vous aussi et poser vos questions aux grandes voix au 3921 ou sur le hashtag Radio Ouverte sur Twitter. Il est 18h30, votre grand journal du soir, c'est avec Nathalie Lévy.
Et le rappel des titres d'Isabelle Millet.
Et les personnes âgées, de plus en plus touchées par le coronavirus. 16 décès enregistrés aujourd'hui à Paris dans un EHPAD du 12e arrondissement. 20 morts dans un établissement des Vosges. 16 dans un EHPAD de Saint-Dizier. 7 victimes également à Sillingy, en Haute-Savoie. Un premier malade a été admis aujourd'hui à l'hôpital militaire de campagne installé à Mulhouse pour soulager les urgences des hôpitaux du Grand Est. Un TGV médicalisé sera lui affrété demain pour la toute première fois afin d'évacuer 30 patients depuis Strasbourg et Mulhouse vers des régions qui sont moins touchées par l'épidémie. Le professeur Didier Raoult claque la porte du conseil scientifique, lui qui a bravé l'opinion majoritaire de ses pairs en proposant un dépistage massif de Covid-19 et un traitement à l'hydrochloroquine. Plusieurs centaines de Marseillais ont encore fait la queue aujourd'hui devant l'institut qui propose ces tests. C'est officiel, les JO de Tokyo qui devaient se dérouler cet été sont reportés. C'est une première entente paix. Ces jeux devront se dérouler au plus tard à l'été 2021. Et puis en Italie, malheureusement, le nombre de morts est reparti à la hausse aujourd'hui. 743 décès en 24 heures après deux jours de baisse.
Isabelle Millet, un nouveau journal complet à 19h. Et du côté du ciel, Anissa, ça donne quoi ?
Eh bien, ça donne toujours demain au nord d'un axe Bordeaux-Chambéry, du très beau temps demain avec un grand soleil sans aucun nuage. Et puis au sud de cet axe, sur les Pyrénées, le littoral méditerranéen et la Corse, des nuages et des averses. Et puis des températures en baisse avec des valeurs négatives demain en début de journée. Une météo détaillée tout à l'heure dans le journal de 19h.
Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. Autour de vous, à distance, Nathalie Lévy, Ève Roger, chef du service société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste à Europe 1, et Emmanuel Duteil en charge de l'économie à Europe 1. Ils décryptent l'actualité, ils répondent à toutes vos questions. Ça se passe au 3921. Dès maintenant, vous pouvez les appeler et vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag Radio Ouverte.
Bonsoir les grandes voix.
Bonsoir
à tous.
Bienvenue évidemment ce soir encore depuis chez vous. On est content de vous entendre. Vous allez bien, tant mieux. Alors on a entendu, je ne sais pas si vous l'avez écouté, Emmanuel Duteil à l'instant, le patron de Lidl, Michel Biérot, qui nous disait bah oui, on manque encore de masques pour nos hôtesses de caisse, pour le personnel qui met en rayon, pour tous les personnels finalement hein, de ces supermarchés, de ces hyper, grâce auxquels on peut s'alimenter, on peut se ravitailler encore quotidiennement. Il nous dit qu'il n'y a pas de pénurie a priori sur les œufs. On lit par ailleurs quand même qu'il y a des grosses difficultés pour les agriculteurs. Il va falloir les aider vite, vite et bien.
Oui, alors effectivement, il y a deux choses dans ce que vous dites, Nathalie. Il a raison, hein, Michel Biérot, quand il dit que pour le moment, il n'y a pas de pénurie. C'est vrai qu'au moment même où vous lui posez la question, il n'y a pas de pénurie. Il y a des manques de certains produits à cause d'une surconsommation de ces produits. C'est le cas par exemple pour les œufs, mais on l'avait connu, et c'est vrai que personne n'est encore capable de comprendre pourquoi, mais on l'avait compris sur le papier toilette, il y a de cela quelques jours. Sauf que ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a pas de pénurie aujourd'hui, qu'il n'y en aura pas demain. Et c'est là le très très gros problème. Je ne sais pas si vous avez entendu ce matin Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, mais appelé l'armée de l'ombre, donc autrement dit ceux qui sont au chômage partiel, à aller dans les champs aider les agriculteurs à produire, à semer.
Ouais.
Parce que c'est là le problème. C'est en ce moment que sur certains produits, les fraises, les asperges ou ce genre de choses, si on n'est pas en train de soit de les ramasser, soit de les semer aujourd'hui, eh ben on n'en aura pas demain. Donc il y a quand même un doute, et c'est pas du tout pour faire peur à nos auditeurs, n'allez surtout pas surstocker, n'allez surtout pas faire vos courses en écoutant en ce moment même Europe 1, mais il peut y avoir de façon sporadique dans les semaines à venir effectivement quelques problèmes d'alimentation dans les magasins, principalement parce qu'on manque de main d'œuvre du côté de l'agriculture et notamment de main-d'œuvre étrangère, puisqu'il y en a quand même une partie qui vient aider hein, chaque année pour faire les saisons. Mais également, vous savez, vous devez tous en connaître autour de vous, ces gens qui, pour un petit complément de revenus, soit parce qu'ils sont sans emploi à ce moment-là, soit parce qu'ils sont à la retraite, vont aider dans les champs. Bah, là, notamment, les retraités, on va pas conseiller à quelqu'un qui a 70 ans d'aller faire un petit tour dans les champs et d'être confronté à d'autres gens autour de lui. C'est bien évidemment beaucoup trop risqué.
Évidemment. Ève Roger, l'information du jour, enfin une des informations du jour, c'est que le professeur Didier Raoult, fameux professeur qui nous parle de chloroquine hein, depuis des jours déjà et qui fait clairement pas l'unanimité, hein, disons-le tel que c'est, ne participera pas aux prochaines réunions du conseil scientifique dont il faisait partie.
Et oui, il faut bien qu'on en parle tous les jours parce que je peux déjà vous dire qu'il va sortir un livre d'ici la fin de la semaine, donc on va encore entendre parler de lui. Et puis, on va entendre parler de lui au moment des résultats des essais cliniques, donc d'ici 15 jours. Sûr. Bref, sur ce conseil scientifique, en fait, il en faisait partie sans en faire partie déjà. Il avait une sorte de strapontin, puisque quand ce conseil scientifique nous a été présenté, il n'était pas exactement dans la liste. Il avait un strapontin parce que justement, il était consultant un peu sur la chloroquine, puisque justement le conseil scientifique se penchait là-dessus. Donc quand il dit il claque la porte, ça veut dire que dans les feuilles de présence, il a toujours été excusé. Donc la porte, il l'a jamais ouverte d'une certaine façon. Mais je pense qu'il veut marquer par là son désaccord à ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire qu'à la fois le conseil scientifique doit le regarder comme ça un peu de travers avec parce qu'il a enfreint d'une certaine façon les règles de la science scientifique et puis lui il se dit de toute façon il doit tracer son chemin tout seul et puis on verra bien d'ici quelques semaines qui avait raison.
Ah oui, évidemment. Alors, Mickaël Darmon, pour la politique avec vous, parce que vous êtes notre éditorialiste politique, on est à la veille du Conseil des ministres, demain mercredi, il sera évidemment et essentiellement consacré aux questions économiques parce que on est, et Bruno Le Maire l'a dit, dans une comparaison avec la crise de 29, désormais on va y revenir dans un petit instant. Le Sénat de fait a adopté d'ores et déjà l'installation d'un comité de suivi, c'est ça, des mesures qui seront mises en place, c'est-à-dire, éclairez-nous.
En fait, il y a une mise sous surveillance hein, de l'exécutif par le Sénat, par la droite, qui a réussi à récupérer un amendement qui consiste, au fond, à créer ce comité de suivi pour contrôler et surveiller.
Donc le Sénat va contrôler le gouvernement.
Exactement, Gérard Larcher l'a fait savoir en ce sens. Il a dit qu'il sera très attentif à la manière dont effectivement ce plan de relance, cette économie de guerre va se mettre en place et comment le gouvernement mettra en place les mesures de sauvetage de l'économie. On sait que demain, effectivement, il y a un Conseil des ministres très important à ce niveau-là. 24 mesures seront présentées. Il y a cette mise sous surveillance par l'opposition en particulier. Donc ça veut dire que derrière l'unité nationale, le travail continue. Hein, c'est la guerre politique qui ne se relâche pas. Il y a également la mise sous surveillance de l'opinion. Hein, ce soir, le sondage donc réalisé par BVA, Orange et Nous Sommes Partenaires, montre bien qu'il y a une défiance qui continue à s'inscrire, à s'installer sur la manière dont le gouvernement gère cette crise. Donc l'opinion qui a à la fois subi bien sûr les décisions gouvernementales regarde et critique et reste extrêmement vigilant à l'égard de la manière dont les pouvoirs publics gèrent cette épidémie. Je voulais juste rebondir quelques instants sur ce qu'a dit tout à l'heure, à l'instant plutôt, Ève Roger par rapport à ce qui arrive effectivement à Didier Raoult et le fait qu'il s'inscrit maintenant comme un personnage emblématique. En réalité, au-delà des discussions bien sûr scientifiques, cette rébellion marseillaise s'inscrit en fait dans une longue histoire nationale de la tradition, de la fronde permanente de Marseille contre l'État central. Et Raoult, en fait, il incarne aujourd'hui, il cristallise cette tradition. Lui-même s'est construit personnellement dans son parcours en marge des institutions. Il a fait beaucoup de choses en candidat libre, il s'est engagé dans la marine, il a passé son bac, il a fait des études brillantes et à chaque fois il a été en rébellion contre l'institution. Il a un franc-parler très très local hein, quand il dit voilà, ils devraient tous revenir à leur manuel de médecine, moi je suis pas outsider, je suis plutôt en avance. Et en fait au fond se réécrit avec lui eh bien aussi une page de notre roman national, c'est-à-dire cette ville rebelle et modèle à la fois. Marseille, c'est la ville rebelle mais qui en même temps le nom de l'hymne national. Donc c'est, ouais. c'est cette, ce paradoxe marseillais qui se, je trouve assez frappant de voir qu'il se redessine et revitalise avec la, la saga du professeur Didier Raoult, mmh. dont on verra comment elle s'terminera.
Comment elle se...
De ce point de vue-là, ouais. je suis pas compétent pour le dire.
On va y revenir évidemment parce que c'est vrai que c'est un feuilleton avec Didier Raoult, on va pas se mentir, chaque jour des nouveautés et le livre, vous nous le disiez Ève Roger, ouais. en fin de semaine. Emmanuel Dutheil, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a été très clair. Aujourd'hui, il juge la crise du coronavirus comparable à celle de la Grande Dépression de 1929. Rien que ça, on est dans une comparaison excessive aujourd'hui ou on est vraiment dans une réalité?
Il faut quand même vraiment souhaiter que cette comparaison soit excessive parce que sinon on va quasiment tous partir à la soupe populaire. C'était vraiment, je trouve que cette image est assez impressionnante puisque
impressionnante,
la crise de 29
ouais.
avait été un effondrement du système à tout niveau. Donc ce qu'il veut dire par là le ministre, c'est qu'on est dans une crise plus grave que ce qu'on avait imaginé. Parce que c'est vrai que jusqu'à il y a encore très récemment, on savait qu'on vivait un choc considérable, mais il y avait une idée qui se propageait de se dire, bon bah dès que c'est fini, on va dire dans 2-3 mois, hop, ça repart. Sauf que là, c'est tellement en train d'abîmer des pans entiers de l'économie. Je prends souvent l'exemple des compagnies aériennes, mais parce que je trouve que c'est l'exemple le plus frappant. Quand vous n'avez plus aucun vol pendant plusieurs mois, et surtout que vous n'avez plus aucune réservation, ou quasiment en ce moment, qui va prendre un vol même pour ses grandes vacances? Parce que tout le monde va se dire, bah, si ça se poursuit, si je peux pas partir, si ceci, cela, si je choisis un pays dans lequel pile le corona arrive, ça va être impossible. Donc notre économie va être extrêmement abîmé, ça va être extrêmement dur de repartir, et puis derrière, les finances publiques des États vont être dans un état, c'est le moment de dire, dans un état désastreux. C'est-à-dire qu'en ce moment, on déverse des milliards d'euros pour essayer de soutenir un tant soit peu notre économie, mais on va terminer avec une récession considérable de sûrement plusieurs points sur l'année 2020, avec un déficit qui va exploser, avec une dette qui va passer allègrement les 100%, et ça, il va bien falloir le payer un jour. Donc, la machine va avoir du mal à tout niveau à rebondir.
Et les banques, de toute façon, les grandes banques commencent à avoir ce même type de comparaison, une comparaison qui émerge dans plusieurs banques internationales, donc excessive peut-être, mais en tout cas, ça fait effectivement le tour du monde, ce type de comparaison avec 1929.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la crise de 29 avait marqué la fin d'une époque, avait été obligé de repenser le système financier, avait été obligé de repenser enfin un peu mieux la redistribution de la richesse. Et là, c'est peut-être en ça aussi où cette crise est très symbolique, c'est-à-dire qu'elle va forcer à imaginer un nouveau modèle de consommation, un nouveau modèle de où on fabrique, etc., etc. Et donc, c'est peut-être aussi cette image-là que le ministre de l'économie a voulu usiter ce matin.
Ouais. Anissa, une petite question, je crois, pour vous sur Twitter, Anissa.
Oui, c'est une question pour Ève Roger avec le hashtag Radio Ouverte. Alors, c'est des propositions d'auditeurs pour essayer de faire des économies de masques. Il y a Marc qui nous dit pourquoi ne pas tout simplement donner un masque à tous les Français, à chacun, en demandant d'insérer entre le visage et le masque un mouchoir en papier que l'on changerait toutes les 3 heures. Cela prolongerait indéfiniment la durée de vie d'un masque.
Alors, je suis pas la grande spécialiste, mais il y a d'abord une chose, je crois qu'on est à 67 millions de Français, je crois qu'on est bien loin d'avoir 67 millions de...
millions de masques.
Enfin, si, alors on a un stock stratégique de 86 millions, a dit le ministre de la Santé récemment. Mais je crois avoir entendu dire que ça pouvait pas marcher comme ça, parce que ça serait beaucoup trop facile, et que le masque, à partir du moment où vous l'ouvrez, il s'use et qu'on peut pas l'utiliser comme ça. Mais en revanche, si je peux dire quelque chose sur les masques qu'on fait artisanalement, on sait que ça ne protège pas du virus, mais j'ai réalisé l'autre jour que si on mettait un masque en tissu, ça permet au moins de pas passer son temps à toucher son nez et sa bouche avec ses mains. Et ça, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on se contamine. Donc si quelqu'un vous éternue dessus, ça vous protégera pas, mais ça vous protégera de vos propres mains et de vos gestes machinaux qui consistent à se toucher le visage 60 fois par minute, je crois bien.
Ouais. C'est sûr. Alors on va se retrouver dans un petit instant, les grandes voix. Ève Roger, je vous ai un peu challengé hier sur la sortie du confinement à Wuhan, en Corée et en France. Comment cela peut-il se passer? Est-ce qu'il faudra sortir, je sais pas, certains quartiers d'abord, certaines régions d'abord, on verra. Mais voilà, je pense que vous avez bossé le dossier et vous allez me répondre dans un petit instant. Ève Roger, Mickaël Darmon, Emmanuel Dutheil, les grandes voix. À tout de suite.
Vous écoutez votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h. Un grand journal qui se poursuit avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Avec autour de vous et à distance Nathalie Lévy, Ève Roger, chef du service société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste politique, et Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1.
Et Emmanuel Duteil, j'ai une question pour vous ce soir. Qu'est-ce que le TGV médicalisé qui va évacuer une trentaine de patients, hein ? On a commencé à avoir l'information. Le ministre de la Santé a annoncé que des patients allaient être évacués vers des territoires moins engorgés grâce à ce TGV sanitaire, c'est ça ?
Oui, c'est un TGV qui est prévu pour ça, hein, qui était en gare en attendant. Vous savez, un petit peu comme finalement l'hôpital de campagne de l'armée. Bah, c'est un petit peu la même logique. On met une trentaine de malades dans ce TGV qui est donc prévu de façon à ce qu'il n'y ait pas de contact entre les différents malades. Il a à l'intérieur tout ce qui est nécessaire pour transporter dans bonnes conditions. L'idée, c'est d'avoir le plus de matériel disponible pour pouvoir transporter d'une région à l'autre, puisque là je veux pas prendre le travail d'Ève Roger, parce qu'elle le fait mille fois mieux que moi, mais l'idée c'est de pouvoir désengorger le plus possible les zones dans lesquelles il y a énormément de malades, vers des régions où la vague n'est pas encore arrivée. On sait que dans le sud-est et dans le sud-ouest, c'est pour le moment, et croisons les doigts, moins impacté. Donc voilà, l'idée, c'est d'utiliser toutes les forces qui sont à disposition. Et on l'a pas créé pour cet événement, hein. Il était déjà prêt, cette éventualité avait déjà été travaillée en perspective d'événements dramatiques, genre attentats, ou là, ce qu'on est en train de vivre.
C'est quand même une première en Europe, il faut quand même le signaler, avec un espace médical à la place du wagon bar précisément, et ce dispositif donc qui permet d'aller de déplacement interrégion en fait pour ces malades. On l'a compris, donc pour désengorger.
C'est que des premières en la matière, hein. C'est-à-dire que tout ce qui a été préparé ou imaginé est plus ou moins mis en place, mais. On le répète beaucoup, hein, mais depuis la grippe espagnole, on n'a jamais connu un tel événement. Et au moment de la grippe espagnole, dans tous les cas, on n'avait pas autant de moyens techniques. Et a priori, on n'avait pas de TGV encore. Donc tout ça est évidemment une première qu'on est en train de mettre en place.
Ève Roger, hier, on se posait la question de...
Alors, il faut que je vous rende ma copie, alors, c'est ça
oh, comme vous y allez.
La levée du confinement.
Comment ça peut se passer? Évidemment, on en est loin. Hein. On va pas.
J'ai retrouvé une déclaration de Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique, qui dit « Dans 30 à 40 jours, l'étau va se desserrer. » Donc, 30 à 40 jours, ça nous emmène toujours à la même date, c'est-à-dire la fin du mois d'avril, déjà. Ouais. 4 à 6 semaines. Et... Effectivement, vous disiez tout à l'heure...
Excusez-moi, je vous interromps juste un instant, mais là, à l'instant, le Conseil scientifique recommande 6 semaines minimum de confinement en France. Hein, voilà,
donc heureusement, il ne m'a pas contredit. Voilà. On y est, 26 semaines. Donc, je continue avec les propositions du professeur Delfraissy. Et là, il nous dit, l'important, et c'est ce qui se passe à Wuhan en ce moment, c'est-à-dire, ceux qui vont sortir, il faut qu'ils soient plutôt des personnes, comme on dit, saines, qui ne soient pas malades. Mmh. Et comment on va savoir que les personnes qui sortent dans la rue ne sont pas malades? Tout le problème est là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui, le président Emmanuel Macron a nommé un nouveau comité, un conseil qui s'appelle le comité analyse, recherche, expertise, c'est-à-dire c'est sur le même modèle que le conseil scientifique, avec des scientifiques, des chercheurs. Il y a même plusieurs qui sont déjà dans les deux conseils. Il leur demande de regarder les traitements, les médicaments, ok, mais après, il y a une phrase qui est incompréhensible si vous ne savez pas de quoi il parle. En fait, il leur demande de travailler sur comment on va travailler avec les données personnelles de chacun pour savoir est-ce qu'on va pouvoir instaurer en France, un système qui ressemble soit à celui de la Corée du Sud, soit à celui de la Chine, évidemment, où le principe, ça sera de nous tracer avec notre téléphone portable. Parce qu'aujourd'hui, à Wuhan, on a un téléphone portable, on sort, il faut que vous ayez un QR vert qui est envoyé par les autorités qui dit « Vous êtes sain, vous pouvez sortir ». Alors on en est loin, évidemment. Ouais. La France n'est pas la Chine n'est pas la France. Mais il y a quand même cette idée qu'on réfléchit à comment à préserver notre liberté individuelle tout en pouvant sortir, en étant porteur, pas malade, et ne pas relancer l'épidémie à la sortie du confinement. Alors ça, c'est vrai, c'est une réflexion éthique. Et puis c'est une réflexion, j'allais dire, technologique. C'est-à-dire que je ne peux pas vous dire, je n'ai pas trouvé la réponse. Il n'y aura pas en bas de chaque immeuble des gens qui vont venir vous tester.
On vous dit, c'est bon, vous pouvez sortir. Vous êtes malade. En Chine, vous êtes malade. Mais on vous met dans un gymnase avec d'autres personnes malades. Vous ne rentrez même pas chez vous. C'est-à-dire que vous êtes dans un endroit de quarantaine avec d'autres malades. Donc ça, c'est évidemment pas possible en France. Mais il va falloir qu'on trouve à la fois des tests, parce que ça, on y revient toujours. Est-ce que dans 30 à 40 jours, on aura suffisamment de tests pour que les personnes qui ont des symptômes encore puissent se faire tester? On a encore des problèmes. Je ne sais pas si vous avez vu aussi, on a des problèmes des kits de prélèvement. Pareil, on se retrouve en pénurie. Il n'y a pas de sérum pour les tests. Et là, il va en falloir... En Corée, ils en ont fait 400 000, il faudrait au moins 400, 500, 800 000 tests pour pouvoir sortir du confinement. Parce que le risque...
8 000 par jour.
Voilà. Aujourd'hui, on en a entre 5 et 8 000. Parce que, effectivement, le risque, c'est que vous sortez du confinement, le virus se balade, et puis paf, ça repart, et puis nous voilà pour la deuxième vague. Voilà.
On est avec un auditeur, Jean-Christophe de Brest. Bonsoir, Jean-Christophe.
Oui, bonsoir, Nathalie, bonsoir à tous. Oui, moi, j'appelais pour une réflexion au sujet du sport. Parce que je trouve que finalement, ils ont assoupli, au lieu de durcir les choses, ils l'ont assoupli.
Le confinement,
parce que,
c'est-à-dire
ils l'ont assoupli en disant aux gens, vous avez droit à une sortie par jour d'une heure dans un rayon d'un kilomètre. Donc moi, je reprends mes cours de CM2, un kilomètre, on fait la circonférence, 2 pi r, ça fait 6 km 28 de circonférence. Ça veut dire que quelqu'un qui fait de la course à pied va courir 10, 12, 15, 17 kilomètres en fonction de sa vitesse en une heure. Donc ça veut dire que les gens, ils vont se sentir libres, ils vont se dire, c'est bien, je peux faire un circuit autour de chez moi de 6 km 28, je suis toujours dans un rayon d'un kilomètre de chez moi, et donc je peux courir 10, 12, 15, 17 km heure.
Vous voulez dire qu'en fait, en précisant, vous voulez dire donc en précisant en fait le kilométrage et etc. Finalement, c'était contre-productif. Ève Roger.
Oui, alors je suis assez d'accord avec notre auditeur. C'est vrai que moi aussi, j'ai trouvé que c'était, c'est finalement on a plus de liberté et même on a le droit d'aller se balader. Je ne sais pas si vous avez vu ça. On peut se balader en famille pendant une heure dans un rayon d'un kilomètre. Alors je crois qu'ils ont cherché à empêcher, c'est que les gens quittent chez eux et partent à la plage, beaucoup plus loin. C'est-à-dire que c'est vraiment en restant dans le périmètre autour de chez soi, au fond, on prend moins de risques, on croise peut-être moins de monde, ou en tout cas, on ne va pas s'agglutiner aux endroits où tout le monde a envie d'aller. Et je pense que c'est comme ça qu'on évite de provoquer des rassemblements. Donc effectivement, on a plus de liberté pour courir, et ça, si vous le faites, je vous félicite.
Mais quand même. Et Jean-Christophe nous appelait de Brest. Merci à vous, restez confinés. Évidemment, restez chez vous, et merci de votre appel. N'hésitez pas à revenir un autre soir sur notre antenne. Michael Darmon, c'est là où je m'interroge, c'est vrai, comme Jean-Christophe et comme certainement des centaines d'auditeurs, voire des milliers, sur la manière dont les choses sont présentées depuis le début du confinement, de manière finalement parfois un peu nébuleuse, que ce soit dans la bouche du président de la République, ensuite Christophe Castaner, la semaine dernière par Édouard Philippe. Oui, les Français sont dubitatifs devant certaines expressions, certaines formulations.
Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, le pouvoir public aussi a décidé d'être adossé, on l'a dit suffisamment, on l'a encore évoqué tout à l'heure, au monde scientifique. Et le monde scientifique, par définition, il est dans le doute, il s'adapte, il accepte par principe que les choses vont être sans arrêt évolutives. Or, le pouvoir politique est quand même celui qui décide, ce qui est frappant quand même aujourd'hui, avec l'installation qu'on vient d'évoquer d'un deuxième conseil scientifique, c'est qu'on a l'impression qu'il y a pratiquement maintenant un méta-gouvernement du gouvernement et du pouvoir exécutif classique du président de la République. Il y a maintenant ces politiques qui conseillent, qui préconisent, mais il faut bien le savoir, ils ne décident pas, sauf que ils avancent avec leur propre méthodologie, c'est-à-dire en disant on sait pas, on avance, on est surpris. Hier l'Italie c'était en baisse, les nombres de décès, aujourd'hui c'est reparti à la hausse, donc on voit bien que les choses sont sans arrêt évolutives. Je pense que Emmanuel Macron fait également cela, il s'entoure également en permanence de ces experts, parce que au fond, et pour peut-être sans être vraiment esprit chagrin, mais enfin en regardant aussi les choses de manière un peu piquante, il veut aussi pallier une forme de solitude. C'est quand même aussi la résultante d'une forme de difficulté dans sa propre majorité à voir les capteurs, à savoir ce qui se passe vraiment dans le pays. On l'a dit suffisamment dans maintes occasions, il y a très longtemps déjà, depuis le début du mandat. Et il a compris qu'avec cette circonstance-là, il n'était pas question d'être dans l'à peu près. Or, Souvenez-vous, hein, il avait même dit à sa majorité, soyez fiers d'être des amateurs. Ce sont pas des gens qui sont toujours très ancrés avec les réalités. Et là, il a besoin de ne jamais, en tout cas, se tromper sur les données qu'on lui donne pour l'aide à la prise de décision. Et juste après, pour terminer, pour rebondir, parce que ce que disait Eve tout à l'heure était vraiment très intéressant par rapport à l'enjeu du dépistage et du traçage de nos données personnelles. Au fond, ce que l'on voit aussi avec cette histoire, c'est un peu un nouveau clivage des pays dictateurs, des dictatures face aux démocraties. Comment une dictature gère cette crise face à une démocratie qui gère la même crise? Et là, on voit bien, on a tendance souvent à dire depuis quelques jours, oh, regardez en Chine, regardez comment ils ont fait. Mais la Chine, on le dit suffisamment, ça n'est pas un pays démocratique. Ils décident d'enfermer les gens quand ils veulent et les gens obéissent.
Juste un mot, Mickaël, rapidement s'il vous plaît. Juste un mot, parce que je ne vous ai pas fait réagir au sondage, les doutes sur la façon dont le gouvernement gère la crise qui s'accentue dans la population. C'est donc le sondage qu'on répercutait tout à l'heure. 37% seulement des Français se déclarent confiants. C'est moins 4 points depuis hier et moins 18 points depuis le début de notre suivi. Ça va décrescendo et à une allure folle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que...
Ça installe le règlement de compte pour l'après. C'est-à-dire que quand les Français seront en situation, via des commissions d'enquête, la fin du confinement, de venir dire mais que s'est-il passé, ça va être sévère. Parce que ça sera cristallisé à travers évidemment l'affaire des masques. Ça, c'est évident. On voit aujourd'hui que les agriculteurs sont
les
en colère.
Les tests également.
Les tests, les masques, la méthodologie. Bien A-t-on sûr. Choisi la bonne méthode? Toutes ces questions qui sont déjà, qui sont forcément légitimes, dont le gouvernement a déjà compris qu'elles seront posées, puisqu'on n'avait aucun membre du gouvernement qui conteste le fait qu'il y aura une commission d'enquête. Ça, c'est assez frappant de l'entendre. Donc, il y aura un après. Et bien évidemment, la façon aussi dont Bruno Le Maire a évoqué la crise de 29, comme le disait très justement tout à l'heure Emmanuel, ça a débouché sur le New Deal, comme on dit, c'est-à-dire une manière totalement nouvelle, avec une forte implication de l'État pour pouvoir reconstruire ensuite après la crise de 29 aux USA à l'époque. C'est le message sous-jacent. L'après va être très difficile.
Il nous reste très peu de temps. Je voudrais finir sur une note à peu près positive. Emmanuel Dutheil, en 10 secondes, est-ce que vous savez déjà sur le plan économique où en est l'Italie à ce stade? Et sinon, je vous laisse réfléchir et je donne la main à Ève Roger pour qu'elle me dise quoi. Que ce soir, on entrevoit peut-être une lumière au bout du tunnel en Italie chez nos voisins.
On a une énorme déception là. Il y a un quart d'heure, j'étais prête à vous dire espoir, espoir. Et les chiffres
aussi,
sont partis à la hausse.
Que j'avais.
Voilà, c'est reparti à la hausse assez fortement d'ailleurs, en nombre de morts, on était à 600, on est repassé à 740 je crois, ou 750, donc c'est encore la preuve que c'est tellement inattendu cette épidémie.
Oui, pourtant baisse consécutive du nombre de morts.
On était au 13e, 14e jour et c'est à peu près le jour où on va commencer à regarder si les chiffres commencent à baisser.
Oui, si le confinement commence à faire effet.
14 jours du confinement, voilà, c'est ça. Mais alors, on ne sait pas, peut-être, enfin, de toute façon, un jour, ça va bien finir par, ça a marché à Wuhan, ça a marché en Corée du Sud, dans le Roubaix, ça a marché. Gardons espoir, je ne sais pas, comme Emmanuel Dutheil, catastrophiste comme ça, nous dire que c'est presque la fin du monde.
Emmanuel Dutheil,
moi, je ne vais pas vous dire que c'est la fin du monde, mais je vais vous dire que quand même, pour la croissance italienne, c'est effectivement une catastrophe. Si je vous donnais si je vous donnais un chiffre là maintenant, je serais un menteur, puisque on n'en a strictement aucune idée. Ce qui est certain, c'est que le tissu économique s'est complètement arrêté, même si on a vu que la production, même sur le non-alimentaire, avait bizarrement plutôt résisté. Mais là, vous avez dû le voir, il y a quelques jours, l'Italie a décidé d'arrêter également sa production non-essentielle. Donc là, on est sur un pays qui est grosso modo complètement à l'arrêt. Et tout à l'heure, je vous dressais un tableau un petit peu compliqué de la France. Bon, l'Italie, c'est bien pire que nous. Ils avaient déjà bien plus de dettes que nous. Rien ne fonctionnait déjà d'un point de vue économique dans le pays, si je caricature. Donc là, ils vont avoir un mal certain à s'en sortir. Mais peut-être pour mieux rebondir, si je dois faire plaisir à Eve, pour rester positif.
Merci.
Et pour être précis, les grandes voix, on est à 743 morts aujourd'hui. Voilà. Effectivement, les chiffres sont tombés là, il y a quelques minutes. Pourtant, hier, on a enregistré une deuxième baisse consécutive. Donc, pas de quoi du tout se réjouir. En Italie, on regarde cette situation de près, comme la nôtre, avec le Conseil scientifique, précisément là en France, qui juge indispensable, je vous le disais il y a quelques instants, de prolonger ce confinement qui durera vraisemblablement au moins 6 semaines à compter de sa mise en place. Donc voilà pour les dernières informations qu'on pouvait vous donner ce soir et que les grandes voix commentaient et vous explicitaient. Merci beaucoup Ève Roger, Emmanuel Dutheil, Mickaël Darmon. Merci les grandes voix. J'ai hâte d'être demain pour vous retrouver.